J'étais un gamin du kibbutz, un sandal short aux genoux couronnés. Un gosse de tôles ondulées, de carcasses de Massey Ferguson rouillées, d'oranges arrachées et de plumes de poulet. Je fumais derrière le garage de Moti des noblesses entre pouce et index sans cligner des yeux. Le jour, je haïssais Meir qui possédait Tamar. La nuit, c'est moi qu'elle rejoignait dans mes songes craintifs. Je me dessinais des blessures de héros à l'épaule. J'étais le fils d'une tombe blanche à deux pas du verger. Je connaissais la fala de Yadana, ses nuages de coton brûlé par le Ramsin, le filet d'eau tranquille et vert du Nahal Nablouz, le chemin de poussière qui menait entre Ronce et Krashadan à l'orangerie d'Abou Moussa et sa cabane en parpaing. J'étais un morveux du kibbutz, un chemise blanche du Shabbat au godillot ciré, lorsque Tamar m'attabla à la terrasse du Kassit pour dévorer un strudel au pavot. Elle me tint la main pour traverser le Kikar à Médina. Du bassin et de sa fraîcheur fangeuse montaient crépusculaires les coassements des crapauds. J'étais un héros du kibbutz qui triomphait de Tel Aviv le 10 juin 52 lorsqu'elle m'embrassait.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Parmi les photos noires et blancs que nous pourrions décrire pour illustrer le monde d'avant, aujourd'hui disparu, mais dont la nostalgie taraude nos mémoires, du moins la mémoire de ceux qui ont largement dépassé le demi-siècle, il pourrait y avoir celle-ci, des gamins en short et chemise blanche, souriant à l'avenir, au milieu d'orangeraies plantées dans le désert. Et puis, il y aurait peut-être aussi celle de rue de New York, la nuit, vers la 42e, devant un club de jazz, avec la silhouette de Coltrane aux côtés de la belle Abel Lincoln. Ou encore, dans un Paris pas encore ravalé, ni gentrifié, la terrasse du Flore pleurait peuplée d'étudiants et d'écrivains refaisant le monde. La guerre était finie, ses blessures mal refermées, mais l'avenir s'ouvrait. Le monde d'après serait forcément meilleur. Découvrir en 2021 un écrivain qui publie depuis 2008 et sans vanter est assez ridicule, j'en conviens. Mais c'est aussi formidablement réjouissant quand on a la possibilité de faire partager son enthousiasme à tous ceux qui vont le découvrir à leur tour ce soir. Shmuel Thierry Meyer vit entre Paris, Genève et Tel Aviv. Il est poète, romancier, journaliste et traducteur et il publie aujourd'hui aux éditions Métropolis une trilogie de nouvelles sous le titre « Et la guerre est fini. Le premier recueil s'intitule Kibbutz, le deuxième The Great American Disaster et le troisième Les Grands Express Européens. On y recroise au gré des récits et des continents des personnages qui tentent de vivre après le désastre. La puissance évocatrice de l'écriture y est telle que l'on voit, comme sur grand écran, les scènes que nous décrit l'auteur. C'est tendre et cruel, désespéré et plein de force, politique et fraternel. Courez vite le chercher chez votre libraire. Bonsoir, Shmuel Meyer.
Bonsoir Kathleen.
Ainsi donc, depuis que vous avez commencé à écrire, la nouvelle, ce format court, semble être vraiment le lieu de votre écriture, le lieu privilégié. Et puis quand on lit ces trois recueils, qu'on les referme, on se rend compte qu'en fait, vous avez écrit un vaste roman, un seul roman. Toutes ces nouvelles se répondent, s'interpellent et nous dessinent finalement le monde dans lequel... Bizarrement, vous n'avez pas grandi parce que vous êtes né bien longtemps après la guerre. Pourquoi est-ce que vous avez voulu situer tous ces petits romans qui n'en font qu'un dans un temps qui a cessé d'exister avant même que vous paraissiez au monde ?
Pour Kibbutz, je parle en partie quand même d'un temps que j'ai vécu. Pour ce qui concerne New York aussi, c'est vrai que pour les grands express européens, c'est vrai. Je suis un mélancolique, je ne suis pas nostalgique, mais je suis un mélancolique. J'ai tendance à dire que pour les nostalgiques, la nostalgie est un refuge. La mélancolie, elle n'a pas de refuge, elle n'a que des asiles. J'ai cette mélancolie d'un temps où on pouvait espérer, après la Shoah, après cette guerre incroyablement cruelle, qu'on était en droit d'espérer quelque chose. Pendant très longtemps, j'ai pensé appartenir à une génération de favorisé, puisque j'étais né dans les Trente Glorieuses, en Europe, au bon endroit, au bon moment, que la vie semblait simple, facile, qu'on pouvait même faire la révolution. On peut même se permettre d'en vouloir à nos parents. Et avec le recul, aujourd'hui, c'est une période qui me fascine parce que j'ai participé, j'ai cette impression d'avoir participé un petit peu à toute cette tromperie, en fait, des Trente Glorieuses, parce que ces espoirs ont été déçus, parce que on livre nos guerres intérieures, parce que c'était pas la paix partout, parce que il y avait des destins qui ont été traversés. Parce que je me mets à la place d'un Américain qui vient de finir la guerre de 40 et qui rentre au bercail et à qui on demande d'aller se battre de nouveau en Corée. Je pense à ces soldats français à qui on a demandé de retourner en Indochine. On pense que la guerre est finie et rien n'est fini. Et tout recommence.
Alors vous disiez, Shmuel Meyer, que vous aviez connu le kibboutz, effectivement, mais pas tellement comme le petit garçon que l'on vient d'entendre, parce que vous y êtes allé à quasiment 30 ans, en 1988, à une époque où les kibboutz commençaient justement à ne plus ressembler à l'espérance qu'ils avaient fait naître en 1948 notamment.
C'est vrai, mais comme j'étais déjà présent au kibboutz en 80, j'ai vécu justement cette période charnière. L'année 1980, le retour des enfants à la maison, pas partout, certains kibboutz ont essayé de prolonger le plus longtemps possible l'idéal kibboutznik, mais d'autres ont cédé rapidement aux sirènes du capitalisme, des salaires différentiels, enfin le capitalisme est rentré à l'intérieur du kibboutz, mais j'ai connu justement cette période parce que j'ai connu le kibboutz d'avant. Celui où, moi-même, quand je suis arrivé au kibboutz, il n'y avait pas de télévision, il y avait une télévision commune. On allait le mardi à la salle au Moadon pour regarder le film. On mangeait tous dans la salle communautaire. Et j'ai vu, petit à petit, en devenant père en plus, en enlevant mes enfants là-bas, que petit à petit, je vivais dans une autre société. Et c'était un idéal qui m'accompagnait depuis les lectures d'enfance de Meir Levin. C'était un rêve, c'était mon idéal parce que j'étais engagé jeune dans la contestation, dans une certaine forme de radicalisme socialiste. Et pour moi, en tant que juif, le kibboutz représentait un idéal. Et c'est évidemment avec tristesse que j'en parle un petit peu aujourd'hui.
Alors, dans ce premier recueil de nouvelles qui forme le tome 1 de cette trilogie, il s'appelle Kibboutz, il y a une figure sur laquelle on va s'arrêter avec vous, Shmuel Meyer, puisque vous êtes écrivain. C'est celle d'un écrivain. On va écouter une première lecture de votre livre.
C'était son fils, son aîné. Celui qui avait quitté la maison alors qu'il n'avait même pas 15 ans. Son fils Daniel, que le kibboutz et Ben Gourion lui avaient enlevé avec le miel de leurs idées corrompues. Son fils Daniel, qui répandait à présent dans le monde des monstruosités sur le peuple de Dieu et sur Dieu lui-même. Il était assis là, derrière son bureau. Lorsque la porte avait grincé, il s'était retourné en faisant pivoter son fauteuil de cuir craquelé qui devait dater d'un temps où la radio s'appelait encore la TSF. Un fauteuil comme une paume de main presque généreuse, sans dossier. Ce qui, remarqua Freya, ne devait pas l'aider à redresser cette voûture naturelle du dos et des épaules qu'il avait héritée du père. Cette voûture de lecture tardive à la lueur d'une lampe à huile. Plus de 40 ans qu'elle ne l'avait revue. Il avait fallu la mort du père pour qu'elle ait enfin le courage d'enfreindre à un kaddish prononcé chaque année depuis 4 décennies. Ressusciter Daniel d'entre les morts sans sépulture et accepter qu'il fût aujourd'hui le célèbre romancier qui signait, sous le nom de Danny Harmon, des livres impies qu'elle n'avait jamais lus. À présent, Freya reconnaissait son fils sans le reconnaître. Elle avait vu la frayeur dans ses yeux et l'embarras dans ses gestes. Ils étaient là, l'un face à l'autre. Freya aurait souhaité le serrer dans ses bras, mais tout chez lui semblait se refuser. « Que fais-tu là ?» avait-il dit de sa voix mal posée. « Ton père est mort !» avait-elle murmuré avec cet accent qui rend l'hébreu si levantin. Il aurait pu aussi afficher un air navré qui lui aurait fait croire qu'il restait en lui quelque chose de filial. Mais il ne s'en était pas donné la peine. « Je ne crois pas que c'était la peine de te déplacer pour ça !» avait-il repris avec brusquerie.
Shmuel Meyer, c'est une nouvelle très déchirante. Cette vieille femme qui fait des kilomètres dans la chaleur pour aller annoncer la mort de son père à un fils qu'elle n'a pas vu depuis des dizaines d'années. La question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que, au fond, en Israël, pour être un écrivain tel que vous le concevez, il faut forcément être un renégat, en tout cas être considéré comme tel?
Ça, c'est une question difficile. Non, je pense qu'il y a des écrivains qui sont consensuels dans la société israélienne et qui. Mais je pense que oui, il y a toujours un peu cette rupture. Je pense que je voulais plutôt exprimer ici le reniement d'une origine. Je crois que ce qui était important, c'est que cet auteur, et il est en effet un renégat. Il est un renégat parce que la société israélienne l'encourage. Cette société israélienne ashkénaze l'encourage à se déshabiller de ses oripeaux d'origine. Et la mère qui vient, parce que le monde séfarade aussi, dans sa tradition, ne peut pas accepter ça. Et c'est cette rupture entre le monde séfarade et le monde ashkénaze dans la société israélienne que je voulais un peu raconter ici. Ce hiatus qu'il y a entre cette coupure terrible qu'il y a entre deux univers qui ne se parlent pas, qui se tournent le dos et qui font que la situation en Israël est telle qu'elle est aujourd'hui. Je veux dire, elle est allée en se dégradant. Donc c'était un peu ça. C'était pas seulement l'idée de l'écrivain. C'était, je pense, l'impossibilité des fois de communiquer entre deux communautés qui partagent pourtant un même destin national.
Il y a peut-être aussi, Shmuel Meyer, un problème aussi politique, c'est que, mais d'ailleurs comme ça se passe dans la plupart des pays, de plus en plus les opinions dissidentes sont mal vues, sont souvent traitées de manière très très brutale. Que je disais renégat, mais c'est vrai qu'en Israël, souvent, quand il y a encore des intellectuels qui s'opposent au consensus militaro-politique en Israël, ils sont traités de traîtres, oui, voire d'antisémites. Est-ce que j'allais me dire, j'ai lu des positions de vous, notamment une tribune du Monde en 2016 sur il faut abandonner les territoires conquis en 67. Ça n'a pas dû vous valoir beaucoup d'amitié là-bas.
Non, certainement pas, et en particulier, j'imagine, dans la communauté juive française qui est, à mon avis, un peu sourde et aveugle à ce qui se passe dans ce pays que j'aime plus que profondément. Et oui, c'est vrai, la dernière fois que j'ai entendu Amos Oz, c'était à Haïfa, c'était pour présenter son dernier opus, qui était la Judas, je crois que ça a été traduit sous Judas, alors que c'était en hébreu, ça aurait dû être traduit différemment. C'était les apôtres ont écrit les évangiles, voilà, l'évangile selon Judas. Ça devait être le titre normal, je pense, en français. Et outre de merveilleuses choses, il avait parlé de trahison. Et il avait fait une sorte d'éloge de la trahison. Quand on trahit quelqu'un pour quelque chose qui dépasse largement le cadre de ce quelqu'un. J'ai pas l'impression de trahir, j'ai pas l'impression que les écrivains israéliens ni l'ensemble de la culture israélienne qui est souvent vilipendée, en particulier par le gouvernement actuel, soient considérés vraiment comme des traîtres. C'est vrai qu'aujourd'hui, dire qu'on est un homme de gauche en Israël, on est considéré comme un traître. Bien sûr que je fais l'objet toujours d'attaques de ce genre-là, mais disons que ça fait depuis l'exécution, l'assassinat d'Yitzhak Rabin, que j'ai pris l'habitude de ça, et il a pris l'habitude de comprendre que malgré mes rêves, je ne suis pas membre à part entière d'un peuple que j'aime dans sa totalité.
Eh bien, vous venez de parler de l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Dans ce livre, Kibbutz, il y a justement des pages où l'on vous entend très, très personnellement, Shmuel Meyer.
À quoi ça sert de se rappeler ce jour-là? Ça me ramène toujours à la bouffée incommensurable de désespoir et de haine mélangée qui s'engouffra en moi et prit la forme de larmes intarissables. Ce n'était bien sûr pas la première fois qu'un juif tuait un autre juif. Ils avaient déjà assassiné Arlozorov, assassiné Kastner, assassiné Grunzweig. Tous ces rejetons dévoyés de Pinchas Ben Eleazar, des zélotes, des phalangistes de Jabotinsky, de Kahana. Une partie de mon peuple qui n'était plus mon peuple. Tamar, la plus jeune de mes filles, avait fait un dessin que son cousin Yotam avait déposé près du cercueil exposé sur le parvis de la Knesset. Une semaine à chialer. Je prenais mon tracteur à l'aube et je disparaissais dans les vergers. Mounir était venu une après-midi à partager son thé avec ma boîte de biscuits entre les grenadiers. Nous pleurions ensemble, l'arabe et le juif. Voici de cette nuit et de cette semaine ce dont je me souviens. Plus de 25 ans ont passé depuis et ma colère a grandi, s'est enflée comme une horrible tumeur. Nous avions les mains sales. Nous n'avions pas vu l'enfant que le sionisme portait en lui, affamé que nous étions de justice, de rédemption, de revanche. Nous avons cru que nous portions en nous un homme nouveau, alors que nous étions contraints, comme tout un chacun sur cette terre, par la violence inhérente à l'homme et à sa puissance. Buber, Magnès, Scholem, Steiner pensaient le juif éthique et émancipé. Le sionisme finalement lui a imposé la banalité de l'humanité et sa servitude. Nous voulions des temps messianiques sans le Messie. Ils veulent le Messie sans le mériter. Et cette ordure, tout droit sortie du ventre de la haine la plus primaire, la plus profondément primitive, s'est abattue sur ce peuple que j'idéalisais d'éthique et d'épopée humaine.
On n'est pas dans le roman, là, Shmuel Meyer.
Non, je pense que vraiment, ça a été, pour moi, la plus grande blessure. La plus grande blessure de ma vie. L'assassinat de Rabin, ça a été un choc que j'ai pas encore réussi à dépasser. Je vois plus Israël de la même manière que je le voyais quand mon père était allé s'inscrire sur les listes en 67 pour participer au combat. Cette solidarité naturelle du peuple juif, j'étais plus dans ce rêve-là, dans cette qualité mousseuse de rêve. Et tout à coup, on venait de déchirer. J'aurais dû être éveillé, savoir que, oui, un juif pouvait tuer un juif. Que c'était inscrit dans l'histoire, et c'est inscrit aussi dans le grand livre. Et oui, c'est vrai, cette histoire m'a bouleversé, et je suis toujours en colère.
Alors, ce qu'il y a de formidable dans vos écrits, Shmuel Meyer, c'est qu'il y a ce mélange de choses très, très dures, très, que vous décrivez très frontalement, sans faire beaucoup de poésie autour des choses qui vous poussent à écrire. Et puis, il y a tout ce qui constitue les endroits que vous aimez, les odeurs, les sons. C'est une écriture très sensuelle. Quel que soit, alors évidemment, il y a ce kibboutz sur Israël, mais qu'il s'agisse aussi de parler même de l'Europe après-guerre, pourtant en ruine, et de l'Amérique, de The Great American Disaster, il y a à chaque fois, notamment à New York, dans la description des quartiers, du quartier juif ou du quartier italien, les odeurs, les gens, c'est comme si on était au cinéma aussi, mais en odorama. C'est assez étonnant d'arriver à mettre toutes ces sensations dans une page.
Oui, j'ai pas d'ambition cinéma dans ma tête quand j'écris. Je suis amoureux de la peinture. Je pense que la peinture et la musique sont des arts supérieurs. Et mon rêve, c'est en fait toujours un peu de peindre. D'ailleurs, c'est comme ça que je commence. Je commence pas avec les personnages. Je commence toujours par un lieu. J'ai envie d'être ailleurs que là où je suis. C'est comme ça que j'écris. C'est pour ça aussi que ces trois livres sont liés. C'est comme une tresse parce que je les ai écrits en même temps. Simultanément, ce jour-là, je voulais être au kibboutz. Pendant cette semaine, je voulais être au kibboutz. Je travaillais sur une nouvelle du kibboutz. Après, il me prenait l'envie parce que j'avais encore entendu un morceau de Coltrane. Et tout à coup, c'est pas par hasard que j'entends un morceau de Coltrane puisque je suis branché en permanence sur du jazz. Mais tout à coup, cette volonté de me retrouver là-bas, dans un New York, en plus de ça, on a tous grandi avec ce New York-là. Moi, New York, j'ai connu New York avant même d'arriver à New York. Je veux dire, c'est Dos Passos, c'est Manhattan Transfer, je devais avoir 14-15 ans. Et pour moi, ça a été une révélation. Et après, les Malamud, les Bello, les Roth, les Faulkner. Pour moi, l'Amérique, elle est entrée en moi, je pense, comme dans toute une génération. Et j'aime bien décrire parce que je pense que les odeurs, il m'arrive fréquemment, je pense que ça doit arriver souvent à quelqu'un, mais moi c'est mon odorat qui me réveille, de passer près d'une voie ferrée. Et comme à Londres, j'habitais près de Paddington Station, il y avait cette odeur de ballast, cette odeur de fer comme ça. Et à n'importe quel endroit dans le monde, si je sens cette odeur, ben je suis à Londres. Et c'est le pain qui chauffé par le... C'est amusant, puisque 30 ans j'étais en Israël, mais le pain chauffé au soleil, pour moi, c'est l'Italie. C'est la Toscane, c'est comme ça que je l'ai connu quand j'étais enfant et que mes parents nous amenaient en Italie. Voilà, je suis très associé, oui, aux odeurs.
Et la musique, bien sûr, le jazz, c'est à New York.
Abbé était arrivée dans les valises de Max Roach et moi dans celles du magazine Downbeat. Elle chantait... Et moi, je faisais des piges rémunérées à $6.25 le feuillet. Elle voulait être la plus grande chanteuse de jazz, et moi, je m'étais accordé 3 ans avant de décrocher le Pulitzer. Pour simplifier l'histoire, Abbé était belle comme un sucre d'orge que le batteur de Charlie Parker rêvait de lécher, et moi, j'étais un gringalet affamé de Wickwaik, Newark, New Jersey. Ils étaient tous déjà là, enfermés dans leur cage de verre. Rudy Van Gelder supervisait l'enregistrement en jouant des balances et des volumes. Cela faisait déjà 8 bonnes heures que lui et Thelma, son assistante, observaient avec fascination les 5 types tranquilles en état de grâce, c'était les mots de Thelma et le titre à mon article, qui inventaient la plus belle musique qu'il m'ait été donné d'entendre pour les 50 années à venir.
Let up! Let up! Let up. When will trouble let up? This heartache. I'm sure.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Abel Lincoln et John Coltrane. Ils sont là, dans ce deuxième tome de Et la guerre est finie. The Great American Disaster, on s'y retrouve quand on lit les romans policiers noirs, quand on aime les films noirs américains. Vous vous êtes fait plaisir, là, Schmelmeyer. Hein. Il y a tout. Il y a les musiciens de jazz, les écrivains, le flic juif qui rentre de la guerre de Corée, la mère noire qui attend que son gamin rentre parce qu'elle ne sait pas si un flic ne l'a pas tué au coin de la rue. Il y a absolument tout.
C'est vrai, je me suis régalé. Là, je me suis musicalement régalé. C'est un plaisir. D'abord, c'est une ville extraordinaire. Je voulais la décrire dans une période très précise, qui a les 20 ans qui séparent la fin de la guerre de Corée
de l'érection.
Des tours jumelles qui sont quand même un symbole maintenant, et puis en plus de ça correspond aussi avec la fin de la guerre du Vietnam. C'est une période improbable, où probablement d'ailleurs New York était en faillite. C'est une faillite d'hommes et de femmes, mais cette musique est extraordinaire. D'ailleurs, on est un peu en 53, on est en plein de jazz, mais déjà on est dans la descente. Les années 70 leur seront pas favorables, le France sera pas favorable au jazz. Gans n'apprécie pas le jazz, mais je me suis permis, comme ça, ça aussi, c'est le plaisir d'écrire, c'est ça, c'est ce côté merveilleux et magique de l'écriture. C'est que voilà, c'est des gens que j'ai jamais rencontrés, que j'aime de toute mon âme. Miles Davis, John Coltrane, Abby Lincoln, Red Garland. Et tout à coup, j'étais avec eux. Je me suis autorisé d'être avec eux pour ces enregistrements extraordinaires. C'est 5 albums magnifiques du quintet de Miles Davis. Voilà, c'est un privilège extraordinaire que de pouvoir...
Eh bien, on est aussi avec vous dans ce New York de ces années-là, Schmelmeyer, et votre personnage de flic traumatisé par la guerre, parce qu'il a vécu pendant la guerre de Corée, il s'appelle Saul Gans, et en fait, il est très 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 déprimé.
Le bar des frères McGill à deux blocs de l'East 67e était l'arrière-cour des flics, le refuge, le sas entre le district et leur lit. Gans vidait deux doubles boulites noyées dans de l'eau de sels, regardait les bulles se disloquer sur la paroi du verre en mâchant un sandwich au thon concombre 3 étages avec assez de mayonnaise pour cimenter la totalité du building Panam qu'on érigeait sur Grand Central. Dehors, la rue était opaque, chargée d'effluves montées de la rivière. Un mélange nauséeux de vase et de soufre, d'algues putrides et de fumée d'usine. Gans connaissait toutes les odeurs de sa ville, se souvenait des anciennes, celles des légumes en décomposition, des carpes argentées, des bretzels rassis et du pain de seigle sur le marché de Roger Street, et des nouvelles, celles du curry, des pizzas industrielles, de la bakélite brûlée et de l'asphalte surchauffé de Broadway après une pluie d'été. Au nez, le lieutenant Saul Gans prétendait savoir s'il était sur les rives de l'Hudson ou celles d'East River. Il se vantait probablement lorsqu'il affirmait qu'il pouvait s'orienter les yeux bandés d'est en ouest, du sud au nord. Ray Kovalchuk, une grosse fesse écrasée sur le bureau de Gans, égrenait sa litanie comme un rosaire de veuves ukrainiennes. Tala Merstein, 17 ans, Newark, New Jersey, portée disparue le 26 décembre. Une beatnik camée, une sacrée youpine avec des putains de nibards. 10 ans depuis le périmètre de Busan, son retour de Corée. 7 depuis l'école de police et 3 depuis son arrivée en provenance du Queens au district de la 67e. Il en avait vu des cadavres, des morceaux de bidoche de ceux qui vous ôtent comme des pelures d'oignon, une à une, vos convictions sur la promesse de l'humanité et les temps messianiques. Il avait tapé dans la gnôle comme tous les autres, goûté de la chimie, rien n'y faisait. Saul Gans perdait chaque jour une épaisseur de peau qui le rendait fragile, plus vaporeux qu'un fantôme.
Shmuel Meyer, ce qui est frappant dans la plupart de vos héros de papier, c'est qu'ils sont tous écrasés par la culpabilité. Certains parce qu'ils sont juste vivants après la guerre, et d'autres parce qu'ils endossent la responsabilité de leurs parents. Et notamment, dans le troisième tome, Les Grands Express Européens, vous parlez de cette génération d'enfants de l'après-guerre en Allemagne et la naissance de la bande à Bader parce que leurs parents, qui ne parlaient pas, avaient été des nazis. Donc, c'est la culpabilité est quelque chose qui court à travers ces trois tomes.
Oui, j'y avais pas pensé sous cet angle-là, mais oui, c'est la culpabilité, c'est peut-être un sentiment qui m'habite en permanence. Alors peut-être que j'en fais participer les autres. Je pense qu'on, oui, par rapport à la marche du monde, par rapport à nos attentes éthiques, morales, oui, on peut avoir un sentiment de culpabilité arrivé à un certain âge. On fait pas attention pendant toute sa vie à ce qu'on fait comme dégâts. Et puis à un moment donné où on fait le cheshbon nefesh, comme on dit en hébreu, on fait une sorte d'introspection et puis on voit en quoi on a été coupable. Je crois que c'est important d'ailleurs de reconnaître sa culpabilité d'une certaine manière. Parce que d'abord ça permettrait aux autres de ne pas nous obliger à le faire. Ce qui est toujours désagréable. Et puis ça nous fait regarder le monde de manière différente, avec un peu plus de miséricorde, un peu plus d'empathie. Et pour ceux qui n'ont pas une autre chance, pour ceux qui sont nombreux, qui n'ont pas de chance. Qui n'ont pas de chance et que la Providence n'amène pas sur ces dérivages aussi doux que la Providence a bien voulu faire de... La vie a fait de moi un touriste, c'est extraordinaire, j'en profite. Alors je me sens un peu coupable des fois d'être un touriste dans la vie.
Alors dans ce troisième tome intitulé « Les grands express européens », ça se passe donc en France, en Italie, en Allemagne, c'est une Europe un peu en ruine. C'est, par rapport aux deux autres tomes de cette trilogie, il y a moins d'énergie, il y a plus d'accablement. Est-ce que c'est parce que c'est l'endroit où a eu lieu justement le grand massacre et que c'est plus difficile de s'en relever que lorsqu'on est en Israël ou aux États-Unis? Il y a un accablement dans cette Europe que vous décrivez et que ce train traverse de part en part. On ne voit que des gens gris, abîmés, cassés.
Oui, alors ça c'est vrai, parce que autant Israël que les États-Unis, terre d'émigration, terre d'espoir, terre de l'Europe, on a fini avec ça, on a fini. Elle a fait le compte des idéologies, elle a fait le compte du malheur, et ça me paraît difficile dans les années 50, en plus de ça, je pense que dans les années 50 dans lesquelles je suis né, je pense que le monde était beaucoup plus proche de ce que avait connu mon grand-père. Je pense que la rue de Vaugirard ressemblait plus, quand j'étais gamin, à la rue de Vaugirard de mon grand-père qu'elle ne ressemble aujourd'hui. Et donc, oui, cette Europe, elle est massacrée. D'abord, elle a perdu toute fierté, je veux dire. Elle est plus le leader incontesté bon, c'est vrai, déjà depuis 14-18, c'est plus le centre du monde. Mais là, vraiment, on est dans cette période de reconstruction où les enfants vont se rebeller contre les parents parce qu'il y en a qui se sont mal conduits. Il y en a qui se sont très bien conduits. Je suis un fils de résistant. On est plein d'idéal. Un idéal souvent qui nous ramène en plus de ça au 19e siècle. Parce qu'au fond, tous ces idéaux qu'on remet sur le tapis, c'était des idéaux de la fin du 19e siècle, l'utopisme socialiste. Et on va régler des comptes avec la génération précédente. Oui, c'est une terre triste, un peu triste, oui, c'est vrai. Et pourtant, on est dans les Trente Glorieuses, dans cet espoir économique qui s'accompagne. Mais je pense qu'il y a quand même des secteurs de je pense que Bel Atola, par exemple, qui est un rapport avec la nature, qui explique à quel point ce type qui revient après la guerre dans ce sanctuaire de la beauté qu'est le Val d'Anniviers, parce que la Suisse, il faut en parler, c'est aussi un peu...
Ah oui, alors vous me dévoilez une Suisse que j'ignorais totalement. Alors ça, il y a une espèce d'hymne d'amour.
À la Suisse, oui, d'abord parce que j'y ai fait mes études, parce que j'y ai passé beaucoup de temps, parce que j'ai beaucoup d'habits, parce que j'y ai mon éditrice. C'est un pays, moi quand j'étais jeune et que j'y étudiais, je le trouvais ennuyeux et... Et depuis que je suis revenu en Europe, je suis plein d'admiration pour ce pays qui est capable de vivre comme il vit, avec trois langues, des religions différentes, et une certaine bonhomie, et une certaine... Et moi, je suis amoureux des paysages. En fait, je suis un enfant. J'ai passé l'essentiel de ma vie en Israël, dans des paysages désertiques. Mais moi, mon rêve, c'est le lac et les montagnes. C'est la neige, c'est... Pour moi, oui, il y a quelque chose de magique en Suisse. Et cette magie-là, je voulais l'exprimer dans la nouvelle de Bel Atola, justement, avec le retour d'Arnold sur ses cimes et comment on monte en montagne et comment... Ça fait partie des paysages de mon existence.
Alors, quand même, les pages les plus pleines d'enthousiasme de ce troisième tome un peu triste sur les grands express européens, c'est quand même quand vos héros rencontrent les écrivains que vous aimez. On cite Albert Cossery, il y a Albert Camus, évidemment. Et là, il y a quand même une sorte de petit espoir dans la littérature, c'est un peu ça.
Moi, j'ai un très grand... Je ne suis pas du tout un théoricien de la littérature, hein, ça, il faudra me pardonner. Mais il y a des écrivains comme ça qui appartiennent à mon cœur. Et encore une fois, comme j'ai eu le plaisir de me retrouver avec Coltrane et Miles Davis, j'ai eu le plaisir de me retrouver aux côtés de Camus, de m'asseoir dans le fauteuil de cuir de Cossery à l'hôtel de la Louisiane. C'est des petits plaisirs que je me refuse jamais.
Pas des petits plaisirs, des grands plaisirs. Et nous, notre plaisir ce soir, c'était de parcourir à nouveau ces recueils de nouvelles formidables avec vous, Shmuel Temeyer. Ça s'appelle « Et la guerre est finie ». Ça vient de paraître aux éditions Métropolis. Trois tomes pour un. C'est bien. Courez-y. Merci à vous. Au revoir.
Merci beaucoup, Kathleen.